Merci beaucoup. Je voudrais juste essayer de... Vous m'entendez ? Bon, essayer de répondre à votre question. Un directeur d'Afrique, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'Afrique subsaharienne, donc qui essaye de synthétiser les informations que nous recevons de nos ambassades, mais aussi de la presse, aussi d'Internet, aussi des hommes d'affaires naturellement, et de faire des propositions à nos dirigeants sur les principaux sujets qui intéressent le continent africain. J'avais 49 pays dans mon royaume, certains d'entre eux très paisibles, comme le Soudan, la Somalie, beaucoup de crises naturellement, beaucoup de pays passionnants. Nous allons avoir nos élections législatives. Et pour cette raison aussi, parce que les diplomates sont tenus à une certaine neutralité, naturellement, n'attendez pas de moi des déclarations politiques fracassantes. Je ne prendrai pas parti, ou très peu, dans la vie politique intérieure de la France, mais je crois qu'on a quand même suffisamment à dire sur ce que je crois être l'avenir possible de mon pays. Du temps où De Gaulle était président de la République, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, circulait une histoire, il y avait beaucoup d'histoires qui circulaient sur De Gaulle, mais il y en avait une que j'aimais bien et qui était la suivante. C'est le pape un jour qui voulait savoir, connaître les opinions religieuses des principaux dirigeants du monde. Alors il avait convoqué un jésuite et il avait d'abord envoyé chez Nikita Khrouchtchev, le patron de l'URSS, et le jésuite lui avait demandé « Croyez-vous en Dieu ?» Et Khrouchtchev avait répondu « Niet ». Ensuite, le jésuite était allé à Washington, il avait rencontré le président Kennedy, il avait posé la même question. Et Kennedy avait répondu « Yes, I do ». Et ensuite, il est allé voir le général de Gaulle, il avait dit « Mon général, croyez-vous en Dieu ?» Et de Gaulle avait répondu « Dieu croit en moi ». Alors la question est de savoir si aujourd'hui la France croit encore en elle-même. C'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser pour toute l'Europe. J'étais très surpris de voir, il y a quelques semaines, je suis en Autriche depuis moins de 2 mois, hein, donc je suis tout nouveau, et vous me pardonnerez certaines approximations. Mais j'étais très frappé de voir récemment qu'on lançait une enquête sur la marque Autriche, marque Österreich. Comme si l'Autriche, au fond, n'arrivait pas à se définir, comme s'il lui manquait un totem ou un animal familier. Comment arriver à vendre la marque Autriche au monde? Et j'ai l'impression que ce doute, d'une certaine façon, affecte beaucoup de pays européens et certainement la France. Du moins, on pouvait se poser la question avant les élections, pour plusieurs raisons. D'abord, naturellement, la crise économique. La France, comme d'autres pays, plus que d'autres pays, moins que d'autres pays, mais fortement quand même, est affectée par la crise économique. Crise d'abord des déficits, crise de l'endettement. Je ne vais pas vous parler uniquement d'économie, mais enfin vous êtes des économistes, donc je vais quand même vous rappeler quelques chiffres. En 2011, la dette de la France se montait à 1700 milliards. C'est-à-dire qu'elle atteignait 85,8% du produit intérieur brut. Et ce chiffre devrait atteindre 90% en 2012. C'est naturellement beaucoup trop. Depuis 1974, nous n'avons pas eu un seul budget en excédent. Le déficit budgétaire a été en 2011 de 5,2%. Ce qui oblige naturellement à la France à recourir chaque fois à l'emprunt pour financer son déficit. La France devra lever 180 milliards d'euros sur les marchés en 2012 et 240 en 2013. Face à cette situation, qui n'est pas propre à la France, naturellement, comme vous le savez, les dirigeants européens ont décidé de réagir et les deux candidats principaux à l'élection présidentielle, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ont affirmé leur intention de rétablir l'équilibre budgétaire. Et François Hollande, lors de la récente réunion du G8, vient de se dire, a réitéré cet engagement. Nous réduirons le déficit à 3% en 2013 et nous atteindrons l'équilibre total, l'équilibre budgétaire, en 2017. Mais naturellement, cela va être très difficile. Cela va signifier beaucoup de sacrifices, d'autant plus, et je reviendrai, que le président, le nouveau président de la République s'est engagé à prendre des mesures prioritaires dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la sécurité. Cela ne va pas beaucoup mieux en ce qui concerne le commerce, puisque notre déficit commercial s'est monté à 70 milliards en 2011, au moment même où l'Allemagne connaissait un excédent de 160 milliards d'euros. Le chômage n'est pas très brillant non plus. Là-dessus, nous sommes très jaloux de la situation autrichienne. Ici, si j'ai bien compris, le chiffre du chômage se monte à 4,2% à peu près. En France, il atteint les 10%. Plus grave encore, 22,5% des jeunes en France actuellement sont au chômage. Alors vous me direz, c'est pas comme en Espagne. En Espagne, c'est un jeune sur deux, mais c'est quand même inquiétant. Ce chômage est dû en particulier à une désindustrialisation de notre pays et aussi à la relative faiblesse des petites et des moyennes entreprises. Il y a un livre qui est paru il y a quelques années, qui a fait grand bruit, qui s'appelait « La France sans ses usines ». En 10 ans, la France a perdu 750 000 emplois industriels. La France a 100 000 entreprises exportatrices, c'est bien, mais l'Allemagne en a 250 000. Ce qui fait qu'avec ces faiblesses qui datent déjà depuis longtemps, le déficit budgétaire, le déficit commercial, la désindustrialisation du pays, la France est naturellement plus vulnérable que d'autres pays aux crises externes, qu'il s'agisse de la crise grecque ou de la possible contagion de ce qui pourrait peut-être, God forbid, se passer en Espagne ou au Portugal. Parallèlement à ces interrogations sur l'économie de la France, on fait face à des questions sur la cohésion sociale et politique du pays. Et on constate qu'en France, comme ailleurs, les mouvements extrémistes ont tendance à monter. Comment l'expliquer? Il y a évidemment le vote de protestation. Vote de protestation contre l'incapacité des dirigeants à résoudre la crise économique. Vote de protestation aussi contre les élites. On attaque beaucoup les énarques, les anciens élèves de l'administration, dont je fais partie. Il y a aussi un autre sentiment qui je crois est très fort en France, c'est la peur de la mondialisation et le sentiment que l'Europe ne protège pas les citoyens de la mondialisation. Sentiment sans doute erroné. Cette montée des extrêmes se caractérise à la fois par une montée de l'extrême droite et par une montée de l'extrême gauche. Et on l'a vu aux dernières élections présidentielles avec le score qu'a fait à l'extrême droite Madame Le Pen, puisqu'elle a atteint 18% des voix. La question que je me pose, et là vous aurez peut-être vous-même dans la discussion des réponses, c'est dans quelle mesure la montée de l'extrême droite en France est-elle comparable à celle de l'extrême droite dans ce pays-ci, à celle d'un pays parti comme le FPE en Autriche. Il y a certainement des points communs, d'ailleurs les deux partis entretiennent des relations. Les points communs, c'est une position très dure sur la question de l'immigration, c'est le rejet des partis traditionnels. Je crois qu'en France, il y a en plus un élément qui est lié à la crise économique, qui frappe plus fortement notre pays que le vôtre, et le fait que beaucoup de gens se sentent déboussolés face à la crise économique. Et les enquêtes sociologiques montrent qu'un bon nombre d'électeurs du Front National sont d'anciens électeurs du Parti communiste. Donc ils sont passés de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais l'extrême gauche, elle aussi, reste vivace en France. On l'a vu dans une certaine mesure avec le vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi dans une moindre mesure avec le vote en faveur des deux candidats trotskistes. Il y a aussi, et naturellement un lien est lié avec l'autre, en parallèlement à cette crise sociale, une crise de l'intégration, peut-être une crise de modèle. Traditionnellement, la France est un pays intégrateur, c'est-à-dire que nous considérons qu'il n'y a pas de minorité en France. Nous refusons l'idée de minorité. Nous refusons catégoriquement de faire ce que font les Américains, par exemple, des statistiques sur les minorités ethniques. Chez nous, c'est interdit, parce que nous considérons que ce serait une forme de discrimination. Il n'y a pas de statistiques. Et en même temps, on a pu avoir le sentiment, et ça c'est un phénomène qui est déjà relativement ancien, que l'intégration est en panne. On a eu un exemple, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, je n'aurais pas pu la date exacte, lors d'un match de football France-Algérie, qui se passait en France, et où une partie du public français avait sifflé l'équipe française pour applaudir l'équipe d'Algérie. C'était évidemment la manifestation d'un malaise. Cette crise est aussi liée à la crise d'un modèle urbain, c'est la crise des banlieues. Chez nous, les plus déshérités sont rejetés vers les banlieues. C'est la crise des grands ensembles, qu'on avait dû au début des années 60 construire très vite pour éliminer ce qu'on appelait les bidonvilles, c'est-à-dire des shanty towns, des habitats précaires, de dons, de boîtes. Ça avait représenté un progrès, naturellement, mais en même temps, ces quartiers ont manqué de l'accompagnement social nécessaire. Je me rappelle, quand j'étais étudiant à l'ENA, j'avais fait un stage avec des animateurs de prévention, c'est-à-dire ce sont des jeunes gens qui vont dans les quartiers les plus difficiles et qui essayent d'aider les jeunes à monter des activités, faire du sport, faire du théâtre. Et un jour, on s'est retrouvé dans une banlieue de Paris, à Aulnay-sous-Bois, dans un café, et à Aulnay-sous-Bois, dans ce qu'on appelait la cité des 10 000, il y avait deux cafés ouverts, point final. Il n'y avait rien d'autre. Et un des animateurs avec qui j'étais m'avait dit, vous voyez, tous les jeunes qui sont ici, ils ont tous un casier judiciaire. Pour vol, pour proxénétisme, pour trafic de drogue. Donc il y a un sentiment de déréliction très fort qui a pu être encore accru par certaines expressions de certains hommes politiques. Il est certain que lorsque notre ancien président de la République a dit « il faut nettoyer ces banlieues au Karcher », ça n'a pas fortifié le sentiment de confiance ou d'intégration de ces populations. Cette relative crise sociale aux crises identitaires est aussi est renforcée par les insuffisances de notre système scolaire. D'après les enquêtes menées par l'OCDE, 20% des Français qui terminent l'école primaire ne maîtrisent pas les acquisitions fondamentales, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et le calcul. Et 9% des personnes âgées de 18 à 65 ans sont ce qu'on appelle des illettrés, c'est-à-dire ne sont pas capables de maîtriser non plus ces techniques. C'est pour cela que notre nouveau président de la République a, de façon très volontariste, décidé d'appeler le ministère de l'Éducation nationale le ministère de la réussite éducative. Pour bien montrer où était l'enjeu, il s'agit de redonner des chances à chacun, à chaque élève, quel que soit son milieu social, pour qu'il puisse maîtriser ses techniques de base. De même, vous allez dire que je suis très pessimiste, après naturellement je serai un peu plus optimiste malgré tout, rassurez-vous, mais de même, notre enseignement supérieur souffre d'insuffisance, notamment au niveau de la licence. Une bonne partie des étudiants qui atteignent la licence ne la passent pas ou se retrouvent sans emploi sur le marché du travail. Et une des préoccupations de nos dirigeants, c'était déjà vrai naturellement sous Nicolas Sarkozy et c'est vrai aussi sous François Hollande, c'est d'essayer d'améliorer le niveau de nos universités avec un baromètre qui vaut ce qu'il vaut. Il n'est pas parfait, mais c'est quand même un baromètre intéressant. C'est le fameux classement de Shanghai, dans lequel nos universités ne figurent pas suffisamment ne figurent pas à un rang suffisant. Alors je vous disais, j'ai volontairement tracé un tableau très pessimiste au début, mais naturellement je ne m'en tiendrai pas là. Mon métier c'est de servir la France, c'est aussi de montrer les atouts de la France, et je vous assure que je ne fais pas cela seulement professionnellement, mais pour moi c'est une conviction très profonde. J'aurais du mal à vendre autre chose. Pour moi, vendre, entre guillemets, faire connaître mon pays, montrer ses atouts, sans en même temps ignorer ses faiblesses, c'est une passion. Et je crois qu'on peut être optimiste sur l'avenir de la France pour plusieurs raisons que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Première raison, avant l'économie. je crois que malgré les crises sur l'identité, malgré les interrogations sur l'identité, malgré les incertitudes économiques, malgré les inquiétudes sur l'avenir, il y a en France un sentiment d'appartenance qui reste très fort. Le civisme reste très fort. Témoin la participation au vote, la participation aux élections présidentielles. Certains disaient, c'est pas la peine de voter, de toute façon ça ne change rien. 80% des Français ont voté, 79,47% au premier tour, 80,35% au deuxième tour. François Hollande a annoncé son intention de réformer le droit de vote en France et de permettre aux étrangers qui vivent en France de voter aux élections locales. Comme vous le savez, jusqu'à présent, en France, comme en Autriche, comme dans tous les pays de l'Union européenne, les ressortissants de l'Union européenne peuvent voter aux élections locales. J'ai été en poste à Londres, j'ai eu le plaisir de voter aux élections municipales à Londres. De même, dans le village où nous avons notre maison, en France, à un certain moment, nous avions deux membres du conseil municipal qui étaient des ressortissants d'autres pays de l'Union européenne, deux dames. Une était belge et l'autre était néerlandaise. Le projet de François Hollande consiste à aller plus loin et à permettre à tous les étrangers, quel que soit leur pays d'origine, de voter aux élections locales. Pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, ces gens-là travaillent en France, ces gens-là payent des impôts, y compris des impôts locaux, et donc il paraît légitime de leur donner le droit de participer à la décision sur la façon dont cet argent sera dépensé. Ce n'est pas la raison la plus importante. La deuxième raison, qui je crois est plus importante, c'est qu'il s'agit de renforcer le sentiment de cohésion sociale entre les Français qui ont la nationalité française et les gens qui sont venus chez nous, parfois pour une période assez longue, mais qui se mêlent aux citoyens français. Ça a suscité beaucoup d'hostilité, de réticence de la part de certains partis. Naturellement, le projet du président Hollande est clair, il s'agit uniquement des élections locales. Cela ne concernera pas les élections présidentielles, cela ne concernera pas les élections européennes, cela ne concernera pas les élections au Parlement. Mais il s'agit, dans l'esprit de notre nouveau président de la République, de renforcer l'intégration des différentes communautés. En même temps que la participation au vote, je crois qu'un élément intéressant, on va voir comment ça va évoluer, mais un élément intéressant, c'est la renaissance de ce que j'appellerais la valeur du respect. Si vous allez en France, vous entendrez très souvent prononcer le mot respect, même de façon familière. « Oh, tu as gagné, respect !» Chapeau, c'est un peu pareil. Et notamment, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans les banlieues, dans les cités. C'est l'aspiration au respect. Et je crois que les dernières élections, la campagne était dure, elle était correcte, mais elle était dure. Mais la passation de pouvoir a montré que dans les grandes familles politiques, on entendait respecter, justement, promouvoir cette valeur du respect, ce que les anglo-saxons appelleraient la « decency ». Et c'est aussi ce que François Hollande entend quand il parle d'un président normal. Et moi j'étais frappé notamment, j'ai lu le texte des deux discours qu'ont prononcé le ministre des Affaires étrangères sortant, Alain Juppé, et le nouveau ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, il se trouve qu'ils se connaissent bien. Et c'était d'une très grande courtoisie. On sentait au fond une sorte d'amitié entre eux, même s'ils ont des opinions politiques, des options politiques différentes. Et naturellement, cela inclut aussi l'humour. L'intégration des minorités, entre guillemets, même si on ne les reconnaît pas, c'est naturellement un travail de longue haleine. Mais il y a des éléments intéressants. Je vais simplement vous en citer quelques exemples. Premier exemple, c'est constitué... Ah, c'est tombé. Parfait, je suis armé. Merci. Vielen Dank. C'est récemment créé un club qui s'appelle le club du 21e siècle, qui regroupe, il y a 350 membres, ce sont des cadres d'entreprise et des hauts fonctionnaires. Et ce sont tous des enfants de l'immigration. Et ils ont décidé de parrainer chaque année des lycéens de zones difficiles, de ce qu'on appelle les ZEP, zones d'éducation prioritaire, jusqu'au bac. Moi-même, quand j'étais à Paris avant de venir ici, j'ai connu un fonctionnaire, haut fonctionnaire du Trésor, d'origine algérienne, qui avait lancé un projet qu'il appelait le projet Mosaïque. Il s'agissait de faire venir des jeunes des quartiers en difficulté dans les ministères, il avait fait au ministère des Finances, au ministère de l'Intérieur, pour entendre parler de la politique française par des hauts fonctionnaires, et aussi d'inviter des hauts fonctionnaires à aller dans les banlieues pour parler de ce qu'ils faisaient. J'avais aussi, alors ça c'est déjà il y a quelques années, un article dans Le Monde sur un professeur d'anglais qui faisait cours sur Shakespeare en Seine-Saint-Denis. Et le journaliste, assez éberlué, avait vu les élèves, tous d'origine étrangère, d'origine africaine, s'affronter sur l'interprétation du roi Lear, et ensuite jouer le roi Lear en anglais élisabéthain. Donc ça prouve que c'est possible. Le problème d'intégration, la crise de l'intégration, n'est pas une fatalité. Le civisme existe, la France a aussi, et ce sera mon deuxième argument, de grands atouts économiques. Alors je ne veux pas avoir l'air prétentieux, mais enfin quand même, malgré la crise, la France reste la 5e puissance économique mondiale et la 2e puissance économique en Europe. La France a aussi, et là-dessus le résultat des élections présidentielles n'a rien changé, la France a la volonté de redresser ses finances, je vous l'ai dit, en avançant sur 3 fronts, la restauration de l'équilibre des finances publiques, la croissance et l'emploi, et troisièmement, l'équité sociale. Ça implique une réforme fiscale qui va être difficile. La marge de manœuvre de nos dirigeants est évidemment très étroite, mais ça implique une réforme fiscale et donc des sacrifices pour un certain nombre de Français, notamment les plus riches d'entre eux, puisque une des mesures annoncées par notre nouveau président de la République consiste à taxer à 75% la tranche supérieure des revenus. Il s'agit uniquement de la tranche supérieure. Les revenus de plus d'un million d'euros par an, c'est quand même beaucoup. Tout ce qui est au-dessus d'un million, pas ce qui est en dessous. Hein, j'insiste là-dessus parce qu'il y a eu des confusions. Mais tout ce qui est au-dessus d'un million d'euros sera pendant un certain temps taxé à 75%. Volonté de réforme, volonté de rétablir l'équilibre des finances publiques, base économique saine avec nos infrastructures. Le TGV en est évidemment le meilleur exemple. J'ai rencontré l'autre jour le président des ÖBB, Österreichische Bundesbahn, qui m'a parlé du plan d'équipement des chemins de fer autrichiens dans les années qui viennent, avec comme objectif 2025. C'est un plan évidemment très intéressant. Dans quelques années, l'Autriche, elle aussi, verra rouler les TGV. C'est évidemment difficile ici à cause de nombreuses montagnes que vous avez. Mais quand on aura percé les tunnels, ce sera également le cas. C'est un atout majeur. La connexion Internet. Deux chiffres. En 2000, 14,4% des Français étaient connectés à la DSL, au broadband. En 2010, ce pourcentage se montait à 68,9%. Je n'ai pas le pourcentage pour cette année. Troisième atout économique, l'énergie. La France émet moins de CO2, de gaz carbonique par habitant, que des pays comme le Royaume-Uni. Je vais vous choquer, mais tant pis. C'est un point de désaccord, évidemment, que nous avons avec l'opinion publique ici. Comme vous le savez, notre autonomie énergétique repose en grande partie sur le nucléaire. Nous avons fait le pari du nucléaire. 80% de notre électricité provient du nucléaire. Nous considérons que cette énergie... Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons qu'il y a des dangers. Nous avons eu les crises de Three Mile Islands, nous avons eu la crise de Tchernobyl et plus récemment la crise de Fukushima. Et à la suite de Fukushima, comme vous le savez, l'Union européenne a, j'allais dire imposé, c'est pas vrai parce que tous les États sont d'accord, mais un plan de remise aux normes de sécurité les plus drastiques pour nos centrales nucléaires. Chez nous, d'après les dernières estimations que j'ai vues, la mise en sécurité aux normes maximales des centrales nucléaires coûtera à Électricité de France 5 milliards d'euros. J'ai discuté avec un cadre d'EDF Il m'a dit, c'est évidemment beaucoup d'argent, mais par rapport à ce que coûterait un Fukushima en France, c'est rien du tout. Et donc, là-dessus, nous serons intraitables. Le président Hollande a décidé de fermer une centrale nucléaire, celle de Fessenheim, en Alsace, près de l'Allemagne, parce qu'elle est située dans une... D'abord, c'est la plus vieille, et ensuite, elle est située dans une zone très, très légèrement sismique. Et là, encore une fois, précaution maximum. Je résiste pas au plaisir de vous raconter l'histoire. J'ai eu une fois, il y a déjà quelques années, une discussion avec notre ministre de l'écologie de l'époque, qui était du Parti Vert, Madame Dominique Voynet. Et je lui avais dit, Madame la ministre, là je laisse mon chapeau de diplomate, mais je voudrais vous parler en tant que citoyen. J'ai beaucoup de sympathie pour les Verts, mais j'ai du mal sur le nucléaire. Ah bon, me dit-elle, et pourquoi? Je lui dis pour la raison suivante. Imaginons qu'on ait une catastrophe grave. À l'époque, c'était avant Fukushima. C'était après Tchernobyl, mais avant Fukushima. Imaginons qu'on ait une catastrophe grave. Combien de temps les effets peuvent-ils se faire sentir? Elle me dit très longtemps. Je lui dis oui, très longtemps. La demi-vie du plutonium, c'est 15 000 ans. Donc, on peut penser que si on a une crise très très grave, les effets vont se faire sentir dans certains endroits pendant 15 à 20 000 ans. Alors elle me dit, vous voyez, on ne peut pas accepter le nucléaire. Je dis oui, mais si on a le réchauffement climatique, les effets vont durer pendant 2 à 300 000 ans. Alors il faut choisir. Elle m'a dit, cet argument, je n'ai encore jamais entendu. C'est un sujet très difficile, et naturellement, nous acceptons la discussion là-dessus, comme j'espère qu'on l'accepte dans ce pays. Il est certain que dans 50 ans, dans 100 ans, on pourra se passer du nucléaire. Ce sera souhaitable. Pour l'instant, nous considérons que ce n'est pas encore le temps. Cela dit, nous essayons aussi, comme vous, comme les autres pays européens, de faire un effort accéléré sur les énergies nouvelles et renouvelables. Sur le solaire, naturellement, sur la géothermie, sur l'énergie éolienne, et aussi sur les énergies marines renouvelables, puisque nous avons la chance d'être entourés de mers, et il y a là une ressource que nous n'avons pas encore exploitée, ou très peu. L'objectif est d'arriver au total à 23% de notre énergie venant des énergies nouvelles et renouvelables d'ici 2020. Autre atout pour la France, et là je pense que M. Diem ne me contredira pas, la présence de ces grandes entreprises. Alors je ne vais pas vous donner toute une liste naturellement, mais si vous prenez une entreprise comme Carrefour, les hypermarchés, Carrefour est le deuxième grand distributeur mondial. Vinci et Bouygues sont les deux premiers groupes de construction dans le monde. Strabag fait également partie des premiers d'ailleurs. Michelin reste, malgré une concurrence très forte, le leader diplomatique. Bon, je ne vais pas vous... On pourrait comme ça citer des tas d'autres exemples, je ne vais pas vous ennuyer avec cela. Mais il est certain que l'existence de ces entreprises est pour nous un atout. Autre atout aussi, c'est l'innovation. D'après le Forum de Davos, la France est située au 7e rang des pays pour l'innovation. Si on considère que, si on prend en compte le nombre de brevets, la France se situe au 6e rang. En 2010, 16 580 brevets ont été déposés en France en 2010. Il y a un domaine dans lequel nous allons essayer de faire un effort d'innovation particulier, c'est l'électromobilité, c'est-à-dire la voiture électrique. On n'en est qu'au début, mais le plan a démarré, et nous prévoyons d'avoir 2 millions de véhicules propres en 2020, et à la même époque, 4 millions de prises dans différents endroits de la France pour que les véhicules, qu'ils soient tout électriques ou qu'ils soient hybrides, puissent se recharger. De même, en 2013, nous devrions avoir 35 millions de foyers électriques, de compteurs, pardon, électriques, smart, intelligents, hein, communicants. Toujours dans le domaine économique, la France, malgré ses difficultés, reste un pays attirant pour les investissements étrangers. La France est au 4e rang de l'Union européenne pour les flux d'investissements directs étrangers et la première destination pour les projets dans les énergies renouvelables. C'est vrai en particulier pour l'Autriche. Il y a de forts investissements entre nos deux pays. Plus de 290 entreprises autrichiennes sont présentes en France. Elles emploient plus de 20 000 salariés. La France est le quatrième pays européen d'accueil des investissements autrichiens créateurs d'emplois après l'Allemagne, la Roumanie et la Hongrie. Au titre de l'attractivité, mais là je ne m'étendrai pas, je citerai naturellement aussi le tourisme. La France reste la première destination mondiale en matière touristique. Un autre atout, et ça, ce sont les hommes d'affaires autrichiens me l'ont dit aussi. Un autre atout de la France, mais c'est un atout à long terme, c'est la démographie. La France a le deuxième taux de natalité en Europe derrière l'Irlande. Le taux d'accroissement est de 0,5% par an, si on prend la base 2011. Il y a un boom de la natalité que nous n'avions jamais acquis. Comment peut-on expliquer cela? On donne en général les raisons suivantes. Première raison, notre régime matrimonial ou paramatrimonial, c'est-à-dire que les gens peuvent faire des enfants administrativement, j'entends, je ne veux pas dire biologiquement, s'ils ne sont pas mariés. On reconnaît exactement les mêmes droits aux enfants que les parents soient mariés ou qu'ils vivent en couple normalement. Deuxième raison, après avoir des enfants, les femmes peuvent très rapidement ou très facilement retrouver du travail. 83% des femmes de 25 à 49 ans sont au travail. Enfin, de nombreux dispositifs permettent de concilier la vie familiale à la vie professionnelle, comme les congés maternité ou de nouveaux modes de travail, comme le télétravail ou le travail mobile. Enfin, nous avons une politique d'allocation familiale qui sont versées aux familles qui ont des enfants, qui est relativement généreuse. Cela ne suffira sans doute pas. Un des objectifs pour maintenir la vitalité de la démographie française consistera aussi à permettre aux gens de travailler de façon plus souple. Cela concerne les jeunes, naturellement, ceux qui peuvent avoir des enfants. Cela concerne aussi les plus âgés, ce qu'on appelle le contrat de génération. Il s'agit de pouvoir permettre aux gens qui le souhaitent, qui ont plus de 65 ans, de continuer à avoir une activité professionnelle. La formation des élites. Alors, je vous ai tracé tout à l'heure un tableau très pessimiste de l'éducation en France. Naturellement, j'ai exagéré. Le niveau de l'éducation générale reste quand même satisfaisant. 38% des Français disposent d'une formation du niveau de l'enseignement supérieur, ce qui est l'équivalent de la Suède, contre 25% en Allemagne, 29% au Royaume-Uni et 11% en Italie. Mais c'est vrai que les insuffisances de notre système éducatif demeurent, et c'est pour cela que notre nouveau président de la République, conformément à son programme électoral, a annoncé sa volonté d'investir dans l'éducation et de créer 60 000 postes supplémentaires dans l'enseignement public. Comme il ne s'agit en aucun cas d'augmenter le nombre global de fonctionnaires, ça veut dire qu'il faudra en supprimer dans d'autres ministères. Dernier élément dont on parle peu, mais qui je crois est important pour définir la façon dont les Français voient la vie ou se voient eux-mêmes en termes, disons, de mentalité. C'est ce que j'appellerais la passion culturelle. La culture est une vraie valeur dans mon pays. Je vais vous citer quelques exemples. Les musées. Là-haut, la fréquentation des musées par les Français est en hausse constante. En 2010, les musées français ont eu 26 millions de visiteurs. Alors, vous me direz, évidemment, il y a beaucoup d'étrangers. Mais il se trouve que, justement, parmi ces visiteurs, les étrangers étaient en baisse. Les étrangers étaient en baisse, notamment à cause de la crise des transports aériens entraînée par l'éruption du volcan en Islande. Je n'ai pas encore les statistiques pour 2011. La France possède 1200 musées. Il paraît que c'est un record européen. Le cinéma, là aussi, la fréquentation, on croit que la fréquentation des cinémas baisse à cause de la télévision, à cause d'Internet. Pourtant, en 2008, 57% des Français sont allés au cinéma au moins une fois dans l'année. Le pourcentage était de 49% en 1997. La politique culturelle en France est une constante. Depuis le général de Gaulle, c'est le général de Gaulle qui a institué le ministère de la Culture en le confiant à André Malraux. Et quelle que soit la couleur politique des dirigeants, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, on a eu un ministre de la Culture. Et en général, ça a été des gens de grand talent. Notre nouvelle ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, est un écrivain connu, elle est très jeune. Elle est née en 1973. Elle a enseigné, elle a écrit des romans. Et elle continuera certainement, comme ses prédécesseurs sous le gouvernement précédent, à essayer de favoriser le plus possible la création et la fréquentation, la consommation, si je puis dire, des œuvres d'art. Je pourrais vous parler encore longtemps, mais je crois préférable qu'on ait une discussion, et naturellement je serai ouvert à toutes les questions. Je voudrais tirer deux conclusions de ce très rapide tour d'horizon. La première conclusion porte sur la crise actuelle. Naturellement, nous sommes dans une très grande période d'incertitude. Au fait de l'économie, ou des langues, les deux, et je ne résiste pas au plaisir de rappeler une citation que je sors toujours quand j'ai une discussion sur l'économie. C'est une phrase que j'avais eue il y a déjà quelque temps dans le Financial Times. An economist is someone who can explain why he was wrong the day before. Et comme on le sait, et le même Financial Times avait une fois pris un portefeuille d'actions, et puis il avait confié à un banquier, à une ménagère et à un enfant de 7 ans. On avait expliqué que c'était un jeu. Qui a eu le meilleur résultat? Vous pouvez vous en douter, c'était l'enfant de 7 ans. Enfin, il arrive quand même que les économistes disent des choses assez justes. Et lorsque les économistes nous disent qu'on risque de nouveau d'avoir un rebond de la crise, c'est tout à fait possible. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Et beaucoup pensent, et je crois à juste titre, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour d'autres pays, que nous sommes en train de nous doter des mécanismes qui nous permettront à nous, aux États, mais aussi aux banques et aussi aux entreprises, de mieux résister à la crise. De stabilité financière. On est en train de mettre sur pied le mécanisme européen de stabilité. D'une manière ou d'une autre, on va naturellement ratifier le pacte fiscal, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, puisque c'est son titre officiel en français. Alors, est-ce qu'il faudra le renégocier comme demande le président Hollande? Est-ce qu'on va le laisser tel qu'il est, comme le réclament les Allemands et aussi Madame Factor? Mais peut-être en lui ajoutant quelque chose qui pourrait être un protocole sur la croissance, on va voir, ça va se discuter dans les jours qui viennent. Une chose me paraît certaine, c'est qu'il y a en Europe un consensus croissant sur le fait que, 1, la discipline budgétaire est indispensable, on n'y échappera pas, mais 2, on ne peut pas faire uniquement de la discipline budgétaire, il faut aussi relancer la croissance, il faut relancer l'investissement, il faut relancer les investissements, les grandes infrastructures européennes. D'où l'intérêt de ce qu'on appelle les project bonds, l'intérêt peut-être aussi des eurobonds. Alors là-dessus, il y a une grande discussion actuellement. Notre président y est favorable. Monsieur Schäuble et Madame Merkel sont contre. Je crois qu'ici, d'après les contacts que j'ai eus, les gens sont plus partagés. Ça dépend des partis, mais peut-être aussi même des personnes. Il faut aussi qu'on arrive à définir à quoi serviront ces eurobonds. S'il s'agit uniquement de permettre aux États endettés d'échapper à la discipline budgétaire, là, la réponse est clairement non, ce n'est pas admissible. Si en revanche, il s'agit de mutualiser la dette et à travers les eurobonds de faire en sorte que la surveillance des banques ne se fasse plus seulement au niveau national, mais puisse se faire au niveau européen, et qu'on ait une plus grande force de frappe pour intervenir, là, ça devient intéressant. Mais naturellement, nous sommes tous d'accord sur un fait, il ne faut pas que la relance de la croissance soit un prétexte pour échapper aux disciplines budgétaires. Les prochains jours, naturellement, ou les prochaines semaines vont être décisifs. On va voir ce qui va se passer avec la Grèce. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que, quelles que soient les difficultés de la Grèce, il est souhaitable que la Grèce reste dans la zone euro. D'abord parce qu'on aime bien les Grecs. Ensuite, parce que si la Grèce devait sortir, les conséquences seraient dramatiques à la fois pour la Grèce et pour l'Europe. Pour la Grèce, simplement une considération. Certains disent, mais si la Grèce quitte l'euro, elle revient à la drachme, elle va pouvoir dévaluer la drachme, elle va pouvoir exporter. Le problème, c'est que la Grèce n'a rien à exporter. La Grèce produit des services. Mais si on n'a pas confiance dans l'économie grecque, les services ne marcheront pas. Et ce n'est pas les quelques exportations d'huile d'olive qui pourront permettre à l'économie grecque de s'en tirer. Donc la Grèce a intérêt à rester dans l'euro, et nous avons aussi intérêt à ce que la Grèce... Donc il y a cette crise, nous devrons sans doute vivre avec pendant longtemps, mais je crois qu'il ne faut pas céder aux prédictions apocalyptiques. Nous pouvons nous en sortir. Deuxième conclusion, je crois que nous, Français, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais j'en suis convaincu, nous avons beaucoup à apprendre de vous, Autrichiens. Nous avons beaucoup à apprendre de l'économie et de l'État autrichien. Non pas que tout soit parti, que tout soit parfait, loin de là. Mais je crois quand même qu'on peut retenir trois leçons qui, pour nous, pour les réformes que nous voulons entreprendre, peuvent être précieuses. Tout d'abord, la croissance économique est une réalité ici. Vous avez notamment des PME, des petites et moyennes entreprises, très dynamiques, qui créent des emplois. Il faut voir comment ça marche et pourquoi. Deuxièmement, vous-même, vous êtes en avance sur le pacte fiscal. Vous avez commencé à mettre, votre gouvernement a commencé à mettre en œuvre ces réformes de retour à l'équilibre. Et le gouvernement autrichien s'engage dans des réformes structurelles, notamment du régime des retraites et du régime des santé. Ça ne veut pas dire que nous devions forcément imiter ce que vous faites, mais je crois que nous avons beaucoup à apprendre. Troisièmement, et c'est peut-être pour moi, encore une fois, je viens d'arriver, donc ce que je peux vous dire mérite réexamen, mais je suis très frappé, depuis que je suis ici, j'en avais entendu parler avant aussi, par la force du pacte social en Autriche, par le dialogue qui existe entre les institutions qui représentent les entreprises, et comme la Wirtschaftskammer par exemple, et les institutions qui représentent les salariés. Que ce soit des institutions à adhésion obligatoire, Wirtschaftskammer, Arbeitskammer, ou que ce soit les institutions à adhésion facultative comme l'IFAO ou comme les syndicats. Je crois que là aussi, pour nous Français, il peut être très intéressant de voir de plus près ce que vous faites et d'essayer d'en tirer les leçons. Une chose en tous les cas est certaine, nous avons tous encore beaucoup de travail à faire et ce travail, nous devons le faire ensemble. Je vous remercie.